L'ICANN, c'est une association de Comana dont le rôle est d'assurer l'entretien, la rénovation éventuellement du petit patrimoine.
C'est quoi le petit patrimoine ?
Alors, le petit patrimoine, pour situer, ça va être en particulier des fontaines ou des calvaires qui, avec le temps, se sont dégradés, ont quelquefois été abîmés. Quelquefois volontairement, on a pu récupérer des pierres. Et à Comana, dans notre patrimoine de pierres, si je puis dire, nous avons tout particulièrement les candi. Candi, c'est un nom breton composé de can, la notion de blancheur du linge qu'on lave, quoi, et ti, muté en di, là, qui est la maison. Donc, maison à blanchir, en français, buanderie, tout simplement. Donc, les candi servaient à blanchir les fils de lin.
Oui, parce que le lin, la fibre de lin, avant de devenir un tissu, il y a tout un traitement. Hein,
exactement. Elle est de couleur plutôt grisâtre. Un peu comme quand on commence à avoir des cheveux gris. C'est un peu comme ça. On dit d'ailleurs des cheveux filasses, quelquefois. Puisque la filasse, c'est la fibre qu'on réussit à tirer des tiges de lin. Et avec laquelle on fait des fils. Avec lesquels fils on fait des toiles.
Et alors, on l'a fait d'abord, je crois, le lin, donc une fois qu'il est coupé, donc c'est une tige.
Non, je vous arrête, excusez-moi, il n'est pas coupé, il est arraché.
Arraché, exact. Oh là là.
D'abord, ce serait dur de le couper, ça userait assez vite le matériel. Et puis, d'autre part, en l'arrachant, ça permet d'avoir toute la longueur de la tige, donc un maximum de longueur de fibre dans la tige.
Et qu'est-ce qu'on fait de cette tige une fois qu'on l'a arrachée ?
Alors, une fois arraché, bon, d'abord, je vous dis, les graines de lin sont semées, en gros, vers la mi-avril et récoltées en juillet. On compte 100 jours pour arriver à la plante récoltable. Donc, d'avril à juillet, en gros, c'est comme ça. Le lin est arraché et les gerbes sont mises à rouir. Alors, c'est un mot dont l'étymologie a à voir avec pourrir, mais beaucoup de gens n'aiment pas qu'on dise pourrir, parce qu'on ne laisse pas pourrir, effectivement, dans des mardeaux,
oui, pas tout
mais
à
simplement
fait.
Se fragiliser, ce qui permet par la suite, une fois qu'on a séché les gerbes de lin, de les casser, ensuite de les battre, de les peigner pour arriver à extraire les fibres, qui elles ne cassent pas, elles sont extrêmement solides, fibres avec lesquelles, comme je vous disais, on fabrique du fil, qui était fabriqué sur les rouets. Et ce fil, il a donc la couleur de la fibre, c'est-à-dire gris-marron. Et on avait envie, ici, dans les Monts d'Arrée, de fabriquer des toiles blanches directement, c'est-à-dire à partir de fil blanc. Avec des toiles blanches, de toute façon, on donne la couleur qu'on veut après.
Ouais, voilà.
Hein. Mais en fait, on commençait ici par blanchir le fil, et on faisait directement les toiles blanches. Je dis ça parce que dans la partie Côte d'Armor, l'évêché de Saint-Brieuc, à l'époque, avant la Révolution, il faisait les toiles avec le fil de sa couleur naturelle. Ils avaient donc des toiles écrues. Et ils blanchissaient les toiles. Ce qui, à mon avis, était plus difficile, parce que c'est plus difficile de manipuler des toiles de 30 ou 60 mètres de long que des échevaux de fil de lin.
Donc le blanchiment du fil avait lieu dans les candi.
Exactement.
Pas le ruissage. Le ruissage, c'était ailleurs.
Non, le ruissage était fait dans des ruisseaux ou dans des mares creusées exprès pour, à l'écart.
Et dans les candi, qu'est-ce qui se passait exactement ?
Alors, un candi est composé d'un foyer, d'une cuve et d'un lavoir. Dans le foyer, on chauffait de l'eau. Donc le candi que nous avons reconstruit, le candi de Rosenoual, et à la rivière du Mougeot qui coule juste derrière. Donc l'eau était prise dans cette rivière du Mougeot qui se jette dans le barrage du Drennec aujourd'hui. Et le fil était plongé dans la cuve dans laquelle on mettait de l'eau chaude, donc qu'on a fait chauffer dans le foyer, eau chaude qu'on faisait passer sur de la cendre. Par exemple, on pouvait tendre un drap sur le haut de la cuve. On mettait la cendre sur ce drap et on faisait couler l'eau chaude dessus. Si bien que c'était de l'eau avec comme lessive la potasse de la cendre qui allait baigner, par exemple, pendant toute la nuit, les échevaux de fil de lin. On les sortait de là, on les rinçait dans le lavoir qui était à l'autre bout du candi et puis on allait les étendre sur des parcelles qui servaient beaucoup à ça, puisqu'elles avaient souvent ce nom, la Lürznöt, par exemple, le courtil du fil.
Et donc le soleil continuait
le soleil, la lune, etc. Et comme ça n'était jamais assez blanc du premier coup, eh ben on recommençait.
Combien de temps, en fait, il fallait pour blanchir ?
Deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à six, sept fois. L'ensemble de l'opération a été faite. Donc, ça pouvait durer longtemps. Puis c'était surtout beaucoup de travail avant d'arriver à du fil blanc, qui, à ce moment-là, était confié aux tisserands. Il y avait des métiers à tisser à peu près dans toutes les fermes. Et c'est eux qui faisaient les toiles, l'hiver en particulier, quand il y avait moins d'activité à la ferme. Les toiles étaient récupérées par des paysans qu'on appelle en français paysans marchands de toiles. En breton, on dit les julots d'aide, parce que ce sont des gens qui ont gagné plus d'argent que les autres.
Ils ont fait des manoirs, ils ont construit des manoirs.
Ah, des manoirs, peut-être pas forcément toujours,
certains,
mais
en tout cas.
Des maisons plus belles que les autres. Les fameuses maisons à avancées qu'on trouve dans tous les villages.
C'est ça ?
Il y en a partout, oui, les maisons à apothèse. Qu'on trouve
typique des monts d'Arrée, là.
Tout
vraiment.
À fait. Et donc, c'était des maisons qui appartenaient à des paysans marchands de toiles, mais qui n'ont pas gardé non plus tout l'argent pour eux. Ils en ont consacré une partie à améliorer l'église et ils ont donc contribué très fortement au financement de la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui les enclos paroissiaux. C'est-à-dire à l'église rajouter un mur tout autour pour faire un enclos, un arc de triomphe comme porte d'entrée dans l'enclos, ensuite une magnifique ouverture pour entrer dans l'église. On abandonne l'entrée qui était souvent au pignon de l'église et on rentre par le côté. Entrée faite avec beaucoup de pierres sculptées en particulier. On rajoute un ossuaire qui permettait de mettre les ossements quand il n'y avait plus de place dans l'église puisque c'était enterré sous les dalles. Et puis un calvaire dans l'enclos.
Ça, il y en a quelques-uns dans le Finistère.
À Comana, il y a deux calvaires dans l'enclos. Tout cet ensemble-là a été financé en grande partie, cette amélioration de l'église, quoi, si vous voulez, par les paysans marchands de toile. Donc ils n'ont pas tout gardé pour eux, quoi.
Enfin, essentiellement le lin, il y avait peut-être un peu de chanvre aussi, non ? Mais
Alors ici, il y en a eu très peu.
D'accord.
Très, très peu. J'ai connaissance d'un champ dont le nom, c'est Parc à Ranab, donc le champ du chanvre. Mais c'était vraiment marginal ici. Le chanvre était surtout travaillé dans l'Ille-et-Vilaine, dans le sud de Rennes, si vous voulez, avec donc production de toile, parce que la fibre de chanvre est moins fine que la fibre de lin. Donc production de toile et de cordage, beaucoup à destination de Saint-Malo pour la marine à voile. Et donc les toiles, j'en étais aux toiles tout à l'heure dans mon processus. Les toiles de lin étaient vendues par les Jules Odette, donc à des grossistes à Morlaix ou à Landerneau. Là, des bureaux officiels donnaient des labels en matière de qualité des toiles. Les plus belles étaient bonnes pour l'exportation et étaient vendues vers l'Angleterre, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, beaucoup. Et l'Espagne, en particulier son port de Cadix, en Andalousie, en revendait dans ses colonies en Amérique du Sud.
Donc le lin des Monts d'Arrée a voyagé loin.
Oui, et sachant que les graines qui étaient plantées donc, dans le nord du département, dans ce qui est aujourd'hui la zone légumière, ces graines étaient exportées par le port de Riga, sur la mer Baltique.
C'est en Lituanie ou en Lettonie ?
Tout à fait, et c'est toujours comme ça.
Les candies à Comana, il y en avait un seul, enfin, pour avoir une idée de la répartition des
candies. Il y en avait 59.
À Comana ?
À Comana.
Et dans les Monts d'Arrée, on sait combien il y en avait ?
Dans les Monts d'Arrée, au Finistère. Je vais vous donner un chiffre.
Ouais.
Mais alors, on a refait un inventaire il y a 3-4 ans des candies de Comana, on a retrouvé trace de 35.
Déjà, c'est pas
sur
mal.
Les 59. Ouais. Si on considère trois communes en chapelet, si je puis dire, Siza, Comana, Plouneur-Ménez, il y avait en tout plus de 260 candies. Ça vous donne une idée
C'était
de
une
l'importance
industrie.
De cette activité.
C'est ça. Ouais.
Tout à fait. Et en plus, à Comana, on a eu la fabrique. C'est le nom qui était donné à une usine, un grand atelier, si vous voulez, de fabrication de toiles, qui était une dépendance de la société linéaire de Landerneau, et qui, en gros, a fonctionné, on peut dire, de 1850 à 1900.
L'apothéose de cet artisanat du lin, c'était quelle époque, en gros ?
Bon, on a des traces du début de l'activité dans les années 1400, et on peut dire que ça s'est éteint au 19e siècle.
Donc vous avez l'association Lichen a rénové un candy, parce que vous ne pouviez pas rénover les 35 dont il restait des traces à Comana.
D'une part, et puis on s'est dit également que ça n'était pas utile non plus d'en avoir plusieurs, Et on en a un, on l'a reconstruit.
À l'ancienne, c'est ça.
Exactement. Alors, comme il était.
Comment, par exemple, comment est-ce qu'on faisait à l'ancienne ?
Alors d'abord, il n'est pas plus grand ni plus petit, puisqu'on l'a rebâti sur ses fondations. D'autre part, ce que je dis toujours aux visiteurs, c'est que la porte d'entrée n'est pas plus large ni moins large qu'avant, puisque les deux pierres du bas étaient toujours en place. De même que le seuil qui est usé, qui a été usé par les sabots de bois pendant des siècles, peut-être. Alors comment on fait ? Bon, d'abord, on a récupéré les pierres qui étaient sur place, et puis on les a maçonnées, non pas avec du ciment, mais avec de la chaux, de façon à refaire. Et on a aujourd'hui des murs qui sont vivants. Il y a des végétaux qui poussent dedans, de la fougère, des ronces, des toutes sortes, des graminées.
C'est normal et c'est joli. C'est,
voilà, c'était comme ça. Et puis, on a fait la charpente avec des arbres qu'on a coupés, qui appartenaient à la commune de Comana.
Du qui chêne. Vous a aidé un peu, du coup ? Qui vous a aidé, la commune vous a aidé comme ça.
Tout à fait, tout à fait, ça a été donné, évidemment,
ouais, c'est ça.
Puisque le candy est à la commune, là, maintenant.
Oui.
Donc, on a coupé des chênes pour faire les poutres et les fermes, les fermettes, si vous voulez. Et puis, pour la partie voliche, c'est-à-dire l'espèce de plancher sur lequel on pose des ardoises, là, ça a été de l'épicéa, appartenant à la commune aussi, mais que là, on a fait passer en scierie, de façon
moderne,
à avoir une découpe, parce qu'autrement, les autres, les poutres, on les a façonnées à l'herminette et à la tronçonneuse.
Ah,
mais ça fait rustique, c'est bien.
Ah ouais, c'est bien,
oui.
C'est quasiment de
l'archéologie. Et puis les ardoises, on en a retrouvé un peu. Il y a des gens qui nous en ont donné, parce que souvent les gens ont, par exemple, démoli des crèches, ils ont gardé les ardoises, ils les ont entassées, bien rangées contre un mur, et 30 ans après, elles sont toujours là, et elles servent et ne serviront pas. Donc on en a eu, des dons. Et puis, on en a acheté un tout petit peu.
Et mais des monts d'arrêt, quand même. Des ardoises des monts d'arrêt, bien sûr.
Ah bah évidemment. Des ardoises du pays. Et puis, on avait la chance formidable d'avoir, parmi nos membres, un couvreur en retraite, Gérard Bellec. Et il est bien évident que c'est lui qui a posé les ardoises. À ce stade-là de la reconstruction, nous, on s'est contenté de les lui passer. Quoi.
Parce que vous êtes combien dans l'association ?
On est une vingtaine. On n'était pas toujours 20 sur les chantiers. Et quand on a terminé en hiver 2012, on était même 2, 3, 4. Mais on voulait finir avant le 31 décembre 2012 parce qu'une des ardoises décoratives qu'on a en fêtage, le fêtage qu'on a fait à la mode ancienne, donc à Lignolet, et dans l'ardoise décorative, le Gérard Bellec...
Ah, Bellec, les ardoises sculptées, là,
voilà.
Des petits motifs, des petits
donc
personnages.
Donc il en a fait plusieurs, ah, dont une qui porte notre nom et l'autre qui porte l'année 2012. Donc on s'était dit, il n'y aura plus de travaux en 2013, il faut qu'il soit fini en 2012.
Mais vous n'en faites pas rien de ce candy, puisque c'est un patrimoine que vous faites visiter, que votre association fait visiter.
Tout à fait. Alors d'une part, on entretient les alentours deux ou trois fois par an, pour que ça soit quand même facile d'accès. Et puis on le fait visiter à tous les groupes qui auraient envie de le visiter. Souvent je sers de guide, mais je ne suis pas le seul. Et puis d'autre part, on fait des visites. Tous les étés, juillet et août, tous les mardis, on donne rendez-vous aux gens. Ça paraît dans l'estivant en particulier. C'est comme ça que les gens, les estivants, justement, arrivent à le savoir. On leur donne rendez-vous sur le parking des Moulins de Kerouat. Et de là, à 15h, et de là, on part au Candy. Et là, donc, on leur fait visiter le Candy.
Et puis peut-être pour les journées du patrimoine ou des opérations.
On y était. On a eu des visiteurs le samedi et le dimanche. Et pour les journées du patrimoine, on a eu des visiteurs particulièrement intéressés qui, là, venaient nous voir précisément parce que le lin les intéressait.
Oui, parce que vous faites partie du réseau de l'association Lin et Chanvre en Bretagne, c'est ça ?
Alors, comme le Candy, c'était une buanderie à fil de lin, on a un lien, nous, Liken, avec le lin. On ne s'occupe pas que des candies, bien entendu, puisque je vous ai parlé d'une fontaine. On s'occupe maintenant de l'entretien et la remise en état des calvaires. Mais on a un lien avec le lin à travers le candy. Donc l'association Liken est adhérente de l'association Lin et Chanvre.